matin, bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Toujours une joie d'être ensemble. Comme je dis souvent, c'est un avant-goût du ciel où est-ce qu'on va être ensemble pour toujours. Mais le Seigneur nous donne des beaux moments, n'est-ce pas, le premier jour de la semaine, de nous rassembler autour de sa personne, autour de sa parole, oublier les tracas de ce monde, des déceptions, des fois des découragements. Un oasis ici, dans ce milieu. Merci Seigneur pour la paix dans ce pays. On peut se rassembler sans entrave, sans contrainte, sans peur, et focaliser sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce, quelle bénédiction. Alors ce matin, je suis bien heureux d'être ici avec vous. Et on va justement, ce matin, on est en train de regarder cette série que nous avons entamée il y a trois semaines, c'est la troisième semaine, le troisième message dans cette série que nous avons intitulé « Bâtissons notre arbre généalogique ». Et comme je vous ai dit, nous faisons partie tous et chacun d'un arbre. Et nous avons justement, par la grâce de Dieu, une belle occasion de faire un impact dans la génération présente et aussi dans la génération future par notre façon d'agir justement dans ce contexte-là. Alors, le premier message que nous avons vu, nous l'avons intitulé « Avant de dire oui, je le veux ». Et là, nous avons sorti des principes bibliques très importants quand on est en train de chercher l'âme sœur avant justement d'aller devant le Seigneur et faire nos vœux. Le deuxième message que nous avons vu, c'était la semaine dernière, notre frère Denis Gay nous a parlé justement maintenant que le couple est uni, le mariage, et le titre c'était « Mariage duo ou duel ». Il nous a justement sensibilisé à cette réalité qu'il y a certains principes aussi de base qui est nécessaire pour que le couple soit solide et comment est-ce qu'on pourrait mettre cela en pratique par la grâce du Seigneur. Alors ce matin, le troisième message dans la série, cela s'intitule « Les parents nourriciers » et qui parle justement des rôles et des responsabilités des parents. Alors, vous savez, peut-être quelques-uns, en écoutant ces messages, vous êtes enclin de dire, mais écoute, ces messages, ce n'est pas vraiment pour moi, parce que je suis célibataire, ou bien je suis parent, mais j'ai peur d'enfants, ou bien je suis parent, mais mes enfants ont grandi, puis le nid est vide, et ils ne sont plus à la maison. Mais vous savez, même si cela est vrai dans votre cas, nous sommes tous dans des relations les uns avec les autres. Notre Dieu est un Dieu de relations. Il entretient des relations avec nous. Et nous, nous entretenons aussi des relations les uns avec les autres. Alors, même si vous n'êtes pas concerné directement par ce message, vous avez sans doute, vous entretenez des relations avec d'autres personnes. Et l'idée, c'est de dégager les principes de ces messages que vous pouvez appliquer dans votre vie, dans votre entourage, dans vos relations avec d'autres personnes. Alors, ceci dit, j'aimerais ce matin brosser un scénario, parce qu'on va parler des parents nourriciers. On va imaginer que vous êtes au centre d'achat, au Rivière, par exemple. Et peut-être que c'est un scénario que vous avez déjà vu. Là, il y a une mère avec un petit enfant, on va dire 3 ou 4 ans. Et vous savez, très souvent, les enfants, en étant jeunes, ils veulent affirmer, justement démontrer leur indépendance. Et le petit bonhomme, il ne veut pas donner la main à sa mère. C'est bondé, il y a beaucoup de monde. Et la mère, bien sûr, elle craint que l'enfant, s'il marche tout seul, ou bien il prend les devants, il peut se perdre, alors elle veut lui donner la main. Elle dit « Donne-moi ta main ». Et l'enfant, lui, il ne veut pas. Mais la mère insiste et lui, il ne veut pas. Et là, on va assister maintenant à une scène où est-ce qu'on voit l'enfant, il commence à crier et à pleurer. Après ça, il monte le ton, il commence à hurler, Après ça, il se jette à terre, il pique une crise, comme on dit en bon québécois, là. Il roule à terre, puis après ça, la mère le relève, mais là, il commence à donner, il frappe sa main, il va donner des coups de pied. Et vous êtes témoin de tout cela. La question que je vous pose, c'est quoi votre réaction? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Mais j'imagine que peut-être quelques-uns, vous pouvez dire, mais écoute, cet enfant, il n'est pas bien élevé, il est mal élevé. Et peut-être quelques-uns, vous êtes en train de penser, oh boy, si j'étais sa mère ou bien si j'étais le parent, oh boy, vous allez voir qu'est-ce que je ferais. Mais de toute façon, qu'importe notre réaction, on voit que même si on n'est pas concerné directement par la situation, en dedans de nous, nous avons ce sentiment que les enfants devraient être bien élevés. Et on admire les enfants, on apprécie les enfants qui sont respectueux, les enfants qui disent « oui, s'il vous plaît, merci » et ainsi de suite. Ça fait partie justement de ce qu'on attend des enfants. Et c'est exactement ce que nous allons parler ce matin. Le sujet, les parents nourriciers. Alors, où se trouvaient justement les consignes, les conseils, l'information pour bien élever les enfants? Est-ce que nous allons tourner vers le docteur Spock? Et je ne parle pas de M. Spock qui est dans Star Trek, pour ceux qui aiment Star Trek. Je parle d'un autre monsieur, médecin, pédiatre, qui est devenu très populaire. Il a écrit un livre, d'ailleurs, qui est devenu un best-seller, qui a été traduit en 39 langues et qui a vendu plus de 50 millions d'exemplaires. Et le livre s'était intitulé « Comment soigner et éduquer son enfant ». Et je vous dis que ça a fait fureur dans les années 70, peut-être un peu avant. Et là, maintenant, les parents consultaient, il y avait justement des idées assez révolutionnaires. Et ça chambardait tout ce qu'on pensait avant sur la façon d'élever les enfants. Mais j'aimerais vous dire ce matin que nous avons un autre best-seller. Et nous avons aussi un parent qui est plus qualifié et qui est le mieux placé pour nous donner des bons conseils, comment éduquer, comment élever, comment prendre soin de nos enfants. Et vous savez de qui je parle? Je parle de notre grand Dieu et je parle aussi de sa parole. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles si vous les avez avec vous. Et nous allons tourner dans le texte pour ce matin. C'est Éphésiens chapitre 6. Et nous allons lire juste un seul texte, c'est le verset 4. Qui nous intéresse pour notre texte ce matin. Éphésiens chapitre 6, au verset 4. Et pour mettre dans le contexte, Paul est en train de traiter la famille. Il a parlé dans les versets, en chapitre 5, à propos des maris et aussi la façon dont il devrait entretenir des relations avec son épouse. Ensuite, il a parlé des femmes et les relations aussi qu'elle devrait entretenir avec son mari. Chapitre 6 commence avec les enfants envers les parents. Chapitre 6 au verset 4 maintenant qui parle des parents à l'égard de leurs enfants. Et là nous lisons chapitre 6 verset 4. Et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ça, c'est la version Louis II. Quel texte court, mais qui renferme beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons conseils en ce qui concerne la façon d'élever les enfants. Et j'aimerais vous dire que quand je parle de élever, le mot dans l'original, c'est de nourrir. Et c'est plus que donner un biberon. C'est plus de donner du pablum à l'enfant. C'est d'élever jusqu'à maturité. Et là, vous avez justement des choses qui rentrent en ligne quand on parle d'élever les enfants. On parle de veiller sur l'enfant, les parents qui veillent sur l'enfant. Les parents qui donnent des soins et l'affection à leurs enfants. Les parents qui stimulent leurs enfants. Et j'ai fait une petite note ici. Faites attention si vous avez des enfants qui sont TDAH. Alors, allez mollo sur la stimulation. Vous voulez vraiment pas les stimuler. Ils sont déjà stimulés. H, comme on dit dans les tapis, là. Il n'y en a pas besoin. Des parents qui encouragent leurs enfants. Les parents aussi qui contribuent à l'épanouissement de leur enfant. Alors voilà l'idée quand Dieu dit aux parents, élevez vos enfants, c'est ce qu'il est en train de dire. Un parent nourricier qui entoure son enfant et tout cela fait dans un contexte d'amour. Et pourquoi est-ce que je dis cela, que cela se fait dans un contexte d'amour? Parce que si on regarde le verset, il y a un contraste dans ce verset. Vous allez remarquer qu'il y a le mot « mais ». N'héritez pas vos enfants, mais. Et là, le contraste. Élevez-les, mais comment? En les corrigeant et en les instruisant. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, chaque fois qu'il est question de corriger, l'amour est toujours associé avec cela. J'ai pris juste un seul texte, il y en a plusieurs. Dans Hébreux 12, 6, c'est Dieu lui-même qui parle, qui dit ceci, « Le Seigneur corrige celui qu'il aime. » Alors, la correction d'un enfant fait toujours dans un contexte d'amour. Salomon, le roi le plus sage, a dit ceci, « J'étais un bon fils pour mon père et ma mère m'aimait avec tendresse. » Vous voyez le contexte encore? Et là, qu'est-ce qu'il a dit? « Mon père m'enseignait. » Alors, Salomon reconnaît qu'il y avait des parents qui l'aimaient, et dans ce contexte-là, il a été élevé et il a été instruit par son père. Alors, élever les enfants, corrige, instruit dans un contexte d'amour. L'autre chose aussi qu'on pourrait dire, que le texte dit « père ». Et quelques commentateurs disent que le mot peut dire aussi « parent ». Ça peut dire « père », mais ça peut aussi dire « les parents ». Et si on prend le sens du mot « père », « n'irritez pas vos enfants », c'est parce que le père est plus porté dans sa façon d'élever ses enfants, de pencher plus sur le côté de l'autorité. Et c'est pourquoi il faut que la parole de Dieu donne cette exhortation, justement, qu'il élève et corrige, mais dans l'amour. Pour la mère, c'est différent. La mère, elle a un amour naturel, spontané, et sa problématique, c'est être trop indulgente. Alors, si on pense que c'est adressé précisément, ou plus spécifiquement au père, mais oui, c'est vrai, parce que les pères, comme je dis, ont cette tendance d'être plus autoritaires et ils manquent un peu sur le côté de l'affection et de l'amour. Alors, voilà, élever les enfants dans un contexte d'amour. Et nous, alors, nous revenons, comme je dis, il y a ce contraste ici entre la manière de les élever. Mais avant d'aller voir cela, la Bible nous met en garde. Comment est-ce qu'on va les élever? Comment est-ce qu'on devrait les élever? Comment est-ce que nous aurions dû les élever? Peut-être que quelques-uns vous êtes en train d'y penser. Mais la première chose que la parole de Dieu nous dit, ne pas hériter vos enfants. Ne pas les hériter. Et si on regarde justement dans l'original, le mot hériter veut dire les provoquer à la colère, les exaspérer, de les faire fâcher. Je vous donne la version de Darby. « Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants. » Darby, c'est ce que la version de Darby va dire. Et Parole de vie va dire ceci. « Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte. » Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver quand les enfants se sentent irrités, exaspérés, fâchés, surtout aussi à l'âge difficile de l'adolescence. Vous qui avez élevé les enfants, vous avez sans doute, vous savez de quoi je parle. Et la Bible est très claire. Faites attention dans la manière où vous élevez les enfants parce que vous pouvez les irriter et les pousser même jusqu'à la rébellion et à la révolte. Mais comment est-ce qu'un parent peut faire cela? Et je ne pense pas qu'en tant que parent chrétien, on a, disons, les sentiments que je vais... Je me lève un bon matin, là, puis je me dis dans ma tête, mais je vais provoquer mes enfants. Je vais les irriter. Je crois que ce qui arrive, c'est des choses qu'on ne fait pas de façon intentionnelle, mais qui arrivent parce que, peut-être par ignorance, ou bien nous avons une certaine tendance. Alors, comment est-ce qu'on peut... fâcher, exaspérer les enfants. Et là, j'ai sorti toute une liste des choses qui peuvent faire en sorte que les enfants sont irrités, sont exaspérés. Pardon. La première chose, c'est le favoritisme. À éviter à tout prix d'avoir dans la famille des préférés, des chouchous, comme on dit. Et là, j'ai pris l'exemple classique parce que là, on voit l'exemple et on voit aussi la conséquence. Vous avez Jacob qui avait 12 fils, vous connaissez l'histoire, et là, il y avait sa femme Rachel, il y a eu deux enfants avec elle, Joseph et Benjamin. Et le texte nous dit que Israël, Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Et pour démontrer cela, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères, ils ne sont pas dupes, là. Ils virent que le père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Vous voyez, le favoritisme dans cette famille ici a provoqué justement la colère, la haine de ses frères contre le chouchou de la famille. Et peut-être dans votre propre milieu, je ne sais pas si vous avez vécu cela, c'est possible que vous étiez un enfant et vous avez un parent et il y avait quelqu'un d'autre dans la famille qui était le préféré. Et cela a évoqué en vous des sentiments justement d'injustice, d'amertume, d'haine, quoi que ce soit. Mais c'est, comme je dis, c'est ce que la parole nous met en garde parce que ça peut provoquer et ça provoque, oui, pas peu, ça provoque justement la colère chez les autres enfants quand ils voient qu'il y a quelqu'un dans la famille, qui est le préféré, qui a tous les privilèges, qui la correction, peut-être c'est moins sévère. Ah, vous comprenez ce que je veux dire. Deuxième chose aussi qui peut irriter les enfants, c'est la surprotection. Vous savez, quand l'enfant vit au monde, zéro, tout de suite, en tant que parent, vous avez la responsabilité de protéger et de prendre soin, de contrôler, ainsi de suite. Mais l'enfant ne reste pas enfant. Il va grandir. Il va aller vers l'âge d'un jeune adulte et ensuite vers l'adulte. Mais la problématique, c'est qu'il y a certains parents qui traitent les enfants, surtout dans l'âge de l'adolescence, comme s'ils étaient toujours des petits-enfants de 2, 3, 4 ans. Ils veulent tout contrôler. Et je peux comprendre aussi l'idée que, oui, le monde est une place qui est difficile et on se soucie des types d'amis et des influences et ainsi de suite. Mais ce sont des enfants qui sont en train de prendre une certaine maturité, une certaine responsabilité. Et il faut que les parents soient bien capables de doser justement cette protection qu'ils peuvent donner parce que vous pouvez avoir l'effet contraire. Et si... les limites sont trop sévères, sont imposées trop sévèrement, vous allez pousser les enfants à la révolte, la surprotection. La troisième chose aussi, c'est le découragement. Évitez les parents qui ne disent jamais « bravo, félicitations, good job ». C'est les enfants qui n'entendent jamais, jamais, jamais les mots d'encouragement. Ça doit être extrêmement difficile. Et tout ce qu'on fait, on focalise sur le mal. On focalise sur, justement, les manquements. Il y a des critiques. Et tu peux comprendre comment est-ce qu'un enfant peut devenir exaspéré et découragé à cause de cela. Très important de ne pas faire cela. L'amour conditionnel. Je t'aime quand tu fais un bon coup. Et quand tu fais pas un bon coup, je t'aime pas. Et l'enfant ressent cela. Et c'est pas comme cela que Dieu nous traite, chers frères et sœurs. L'amour de Dieu pour nous, c'est inconditionnel. Mais en tant que parent, on peut justement tomber dans ce panneau et justement pratiquer l'amour conditionnel. La pression de la réussite. Où est-ce que l'enfant se sent maintenant? Il faut qu'il performe. Il faut qu'il soit parfait. Et je comprends cela aussi, surtout dans un contexte de l'Église. Si le père est pasteur, il y a des enfants, pouvez-vous imaginer la pression qui est sur l'enfant de toujours bien performer, puis de ne pas faire ci, de ne pas faire ça? Ça doit être extraordinaire, ça doit être difficile pour l'enfant, et en plus pour les parents aussi, là, je comprends les deux côtés. Comment est-ce que les autres parents dans l'Église vont me regarder si mes enfants ne sont pas des enfants qui donnent l'image qu'ils sont parfaits? Et souvent aussi, ça c'est un côté de contexte de l'Église, mais aussi il y a d'autres contextes où est-ce que souvent les parents veulent réussir un rêve qu'ils avaient, mais à travers l'enfant. Un père qui aurait toujours voulu être la vedette sur une équipe de sport. Il n'a pas réalisé son rêve. Et là, il met une pression énorme sur son fils d'être justement la vedette sur l'équipe de football. Et ainsi de suite. Et ça peut... Peut-être l'enfant, là, il ne veut rien savoir du football. Ce n'est pas dans ses gènes. Mais c'est une manière, justement, comme je dis, de l'exaspérer puis de l'irriter. Et là, vous avez le manque de sacrifice. Ça aussi, c'est une manière de détruire un enfant. De le faire sentir que toi, là, tu es un accident de parcours. Et là, tu es un obstacle à ce que je veux faire, mes projets. Et ainsi de suite. Et ça aussi, ça détruit. Ça détruit un enfant. Ça les exaspère. Et finalement, l'abus physique et verbal, où est-ce qu'on va au-delà, justement, de ce qui est raisonnable quand on corrige un enfant. Et ça peut être aussi verbal. On écrase l'enfant par nos paroles, on le fait sentir qu'il n'est rien, et ainsi de suite. Des façons d'exaspérer, d'irriter les enfants. Et vous savez, quand j'ai préparé cela... Moi, je suis parent, j'ai 5 enfants. Le Seigneur m'a parlé. Et je suis devant vous comme quelqu'un qui a manqué. J'ai fait des erreurs. Et s'il y avait des choses à refaire, je ferais des choses différemment. Mais le Seigneur m'a donné la grâce d'appeler chacun de mes enfants. Hier soir, là, j'ai pris le téléphone. Je les ai appelés un après l'autre. J'ai commencé par l'aîné et j'allais un après l'autre. Et je leur ai demandé. Et j'ai vu mes erreurs, j'ai vu mes manquements. Alors, la première chose que j'ai fait, je leur ai demandé pardon. Je vous demande pardon du fait que j'ai manqué. Et dans mon cas, à moi, je vous le partage, je n'étais pas assez équilibré. J'étais plus sur le côté d'autorité et pas assez équilibré sur le côté d'affection et d'amour. Et je sais pourquoi, je ne fais pas d'excuses, mais ça, c'est à cause de... à mon arrière-plan, de la manière dont j'étais élevé à la Barbade, aux Antilles, où est-ce que les parents sont très sévères, les enfants, ce que je vous ai raconté, ce qui est arrivé au centre d'achat, on ne voit jamais cela. Les enfants, là, les adultes sont les adultes, c'est le respect, en tout cas. Mais la correction, oui, je suis pour cela, comme on va voir tantôt, mais aussi il faut donner l'affection. Il faut donner justement l'amour aux enfants. Et je leur ai demandé pardon. Et après, je leur ai demandé, je dis que si vous avez des conseils, parce que je dis demain, je vais être à l'église, je vais être en train de parler aux parents. Alors, avez-vous des conseils à me donner pour cela? Qu'est-ce que j'aurais dû faire dans la façon que je vous ai élevé? Et c'était très révélateur. Je pensais qu'ils allaient me dire tous la même chose. Et ce que j'ai constaté, et qui était révélateur pour moi, c'est que chaque enfant est unique. Et chaque enfant a un besoin différent. Et le défi du parent, c'est d'aller justement comprendre son enfant, de bien le connaître et d'ajuster sa façon de l'élever selon ce besoin. Et j'ai eu 5 conseils différents. Et pourtant, je pensais dans ma tête, je vais tout élever de la même manière. Mais je voyais comment est-ce que chaque enfant avait réagi justement à la manière dont je les ai élevés. Alors, ils étaient très gracieux. Ils m'ont dit, père, on te pardonne. On te pardonne. Et je dis merci, merci. Comme quelqu'un a dit, il n'est jamais trop temps de commencer à faire ce qui est bien. Never too late to begin to do what's right. Et on a eu des bonnes conversations. Alors, élevez les enfants, s'il vous plaît, ne pas les irriter. La deuxième chose qu'on veut maintenant que le texte nous dit, une fois qu'on a bien compris cela, on veut élever les enfants, mais aussi dans l'autre côté, c'est de les corriger et en les instruisant selon le Seigneur. Et le mot ici parle d'une discipline, parle d'une éducation. D'autres versions vont utiliser le mot châtiment, une formation. Et Darby va dire ceci, élevez-les dans la discipline du Seigneur. Le second de 21 va dire ceci, élevez-les en leur donnant une éducation qui vienne du Seigneur. Il y a une raison pour cela. Il y a une raison pour cela. Si je vous montre cette photo ici et je vous pose la question, trouvez la reine. Qu'est-ce qui ne va pas ici dans cette photo? Mais là, vous avez une fille qui est en train de faire la morale à sa mère. C'est comme si le rôle était inversé. Et la Bible nous dit que oui, les enfants ont besoin d'être corrigés. Il y a des raisons pour cela, parce que la folie est attachée au camp de l'enfant. L'enfant ne sait pas, surtout quand ils sont très, très jeunes, il ne sait pas, il pense qu'il sait, mais ils ne savent pas ce qui est de bonnes choses pour eux autres. Les parents ont plus d'expérience. Les parents sont donnés là par le Seigneur pour guider et diriger les enfants. Alors, ils ont besoin justement de cette forme de correction, de discipline. Et un enfant qui est livré à lui-même, malgré qui parfois les spécialistes vont nous dire, fait honte à sa mère. Et j'imagine que la maman qui était au centre d'achat avec ce petit-là, et le monde qui regardait, c'était une situation honteuse. Puis j'ai déjà vu des témoins, j'ai inventé une histoire, mais j'ai déjà vu des situations semblables. Alors la Bible nous dit, oui, Dieu nous dit dans sa sagesse que les enfants ont besoin d'une direction, ils ont besoin d'une discipline. Et j'ai regardé à travers la parole de Dieu, où est-ce que Dieu lui-même, en tant que parent, comment est-ce que Dieu nous traite en tant qu'enfant? Et qu'est-ce qui est englobé dans la discipline de Dieu? Parce que nous sommes corrigés par Dieu, nous sommes ses enfants. Et comme un père, Dieu qui prend ses responsabilités à cœur, Dieu nous regarde et Dieu dit aussi, oui, ce sont mes enfants, mais ils ont besoin aussi de correction. Alors, la première chose que quand on applique justement la correction aux enfants, cela imite Dieu dans sa sagesse. Mon fils ne méprise pas la discipline du Seigneur. Hébreux est en train de nous dire qu'il parle justement aux chrétiens, mais on voit ici que Dieu applique la discipline à ses enfants. Il corrige. Et pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Mais il sait que nous en avons besoin. Alors, qui suis-je en tant que parent d'épargner la correction à mes enfants pour prétendre que je suis plus sage que Dieu? Si Dieu, le créateur de l'univers, si Dieu qui nous a formés, si Dieu qui est notre Père et nous sommes ses enfants, corrige ses enfants. Alors, quel exemple pour nous de dire, écoute, lui il est sage, moi aussi je vais suivre et je vais aussi appliquer la correction dans l'amour à mes enfants. La deuxième chose qu'on sait aussi, c'est une preuve d'amour. Celui que le Seigneur aime, il le discipline. On avait déjà vu ce texte. Et Dieu démontre son amour envers nous, même si à l'époque, ou meilleur, quand on est dans la discipline, on ne croit pas vraiment que c'est un geste d'amour. Mais c'est une manière de Dieu de dire à nous, tu es important pour moi. Tu es précieux pour moi. Moi, j'ai des plans, j'ai des dessins pour toi, puis je ne veux pas te voir passer à côté. Et parce que j'aime mon enfant, j'aime mon fils, j'aime ma fille, je vous aime, alors je vais prendre le temps de vous corriger, pour vous diriger dans la bonne direction. C'est aussi une marque de filiation. Ça nous démontre que nous sommes vraiment au Seigneur, nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles. Si vous êtes sans discipline, vous êtes des bâtards ou bien des enfants illégitimes et non pas des fils. C'est comme si quelqu'un dit, mais écoute, il ne vaut rien, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Mais le fait que Dieu s'attache à nous, le fait que nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils, c'est une preuve justement que Dieu nous aime et il veut justement ce qui est le mieux pour nous. Cela cherche à conduire vers la soumission. Le texte nous dit ceci, nous avons eu des pains de notre chair pour nous discipliner, oui c'est vrai. Et nous les avons respectés et je regarde aujourd'hui et je vois mon père et la façon dont il m'a élevé. Ok, il y a eu des manquements, mais j'apprécie le fait que j'avais des penchants et puis je poussais croche. Et mon père a pris le temps de me redresser. À l'époque, oui, ça faisait mal, puis je n'aimais pas ça. Mais aujourd'hui, je regarde en arrière, puis je dis, oui, merci Seigneur, que tu m'as donné une paire qui m'a dirigé dans la bonne direction. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des Esprits? Et ça, c'est une clé, justement, d'un enfant qui a appris la soumission. Pourquoi? Parce que ça ouvre la porte. Si un enfant n'a pas appris à être soumis à ses parents terrestres, comment voulez-vous qu'il y ait cet esprit de soumission à Dieu et les contraintes de Dieu sur sa vie? Alors, ça passe par les parents, de montrer justement, en appliquant cette discipline, que oui, il y a la discipline à être exercée. Nous vivons dans une société où est-ce que nous avons besoin de respecter l'autorité. Et quand il n'y a pas de respect pour l'autorité, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'anarchie. Et les enfants, il faut qu'ils apprennent cela. Et commencez pas quand ils ont 15, 16 ans, c'est trop tard. C'est quand ils sont là, 2, 3 ans, c'est le temps justement de montrer, oui, il y a une autorité, et de les corriger avec amour et de les montrer dans la bonne direction. Et la dernière chose, cela cherche à contrer le mal et favoriser le bien. Dieu nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Ce n'est pas pour le plaisir. Parce que quand quelqu'un est bien élevé, et je parle du côté spirituel ou aussi du côté physique, quand on marche dans les voies du Seigneur, quand on accepte justement ses corrections, on est bien. On apprend justement à fuir le mal et le péché et de récolter des conséquences aussi. Qu'est-ce que cela amène? On marche dans la droiture avec notre Dieu. Et on récolte aussi les bénédictions. Et c'est la même chose aussi pour les enfants. Les enfants qui sont laissés à eux-mêmes, qui ne sont pas corrigés, qui poussent justement, crochent, et qui récoltent justement les conséquences de leurs gestes. Ils ne sont pas heureux. Et quand vous avez des enfants qui ont été bien élevés, ils sont un plus pour la société, ils sont un plus pour leur entourage. Et même si on ne parle pas du salut, mais ce sont des personnes qui sont là et qui marchent droitement, qui respectent l'autorité. Alors, il y a le bien qui découle, justement. On sait que l'ultime bien, c'est le salut et aussi d'être quelqu'un qui, comme on a entendu ce matin, qui propage l'Évangile envers d'autres. Mais il y a aussi le côté d'être quelqu'un qui est un bon citoyen, qui respecte la société et qui fait du bien à son entourage. Et nous en avons besoin de telles personnes de plus en plus. Alors, Dieu nous cherche à contrer le mal et favoriser le bien. Je vous laisse avec deux exemples tragiques dans la parole de Dieu. Il y a l'exemple d'Élie, le sacrificateur et ses fils. Un homme qui avait cette haute fonction, qui connaissait la parole de Dieu, qui connaissait la loi de Dieu. Et la Bible nous dit, c'est Dieu qui passe le jugement sur sa maison. Je vais juger sa maison à cause de l'iniquité qu'il connaît. Parce que ses fils se sont avilis et qu'il ne les a pas retenus. Et vous connaissez l'histoire, c'est dans le livre de Samuel, cet homme qui avait deux fils, Ophni et Phinehas, qui débauchait. Et le père, il a rien fait. Il a juste donné quelques paroles de reproche, mais il ne les a pas justement cassé ça. Et Dieu a porté jugement sur sa maison. Et ses fils sont morts en bataille. Et lui aussi est mort. En tout cas, c'est une histoire très tragique. Et la deuxième chose aussi, c'est David avec son fils Adonija. Et là, quand j'ai lu cela, je dis, est-ce possible? C'est ce jeune homme, un prince, David est vieux, il avait déjà mis son fils Salomon comme successeur. Et là, vous avez notre fils Adonija qui se laisse emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai le roi. D'aller à l'encontre, justement, de la parole de Dieu et aussi le désir, la volonté de Dieu. Et il s'est proclamé roi et ainsi de suite. Et lui aussi a eu une fin tragique. Il est mort, il a été tué. Et là, on voit ici que son père lui avait, de sa vie, fait une reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Alors Dieu veut que nous, en tant que parents, que nous corrigions nos enfants, mais comme je dis aussi, tout cela devrait se faire dans l'amour. Et la deuxième manière, n'héritez pas vos enfants, élevez-les, oui, en les corrigeant, mais aussi en les instruisant. Et le mot veut dire mettre dans l'esprit, donner des avertissements, donner les exhortations. Élevez-les sous les avertissements du Seigneur, Darby va dire. Élevez-les dans l'enseignement du Seigneur, ça c'est la Bible annotée, Neuchâtel. Et où est-ce qu'on va trouver cet enseignement pour nos enfants? C'est dans la parole du Seigneur. Ça c'est un texte qu'on cite souvent quand on va parler justement d'enseigner des enfants. Ces commandements, Dieu dit, il parle aux enfants d'Israël, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Et là, maintenant, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, etc., etc. Et ça, c'est aussi la volonté de Dieu quand on élève nos enfants, on les instruit dans la justice, selon la parole de Dieu. Et j'aimerais que vous remarquiez ici que Dieu dit, avant de dire que tu inculques la parole à tes enfants, où est-ce que la parole devrait être dans ton cœur? Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et un parent qui n'est pas imbibé avec la parole de Dieu va trouver ça difficile, même un fardeau, d'inculquer la parole de Dieu à ses enfants. Et où est la faille? Mais le verset précédent de Deutéronome 6 et 7, c'est le verset 5. Et le verset 5 dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ça, c'est la clé. Et quand nous sommes attachés au Seigneur dans l'amour, qu'est-ce qui arrive? Sa parole, on a un goût pour sa parole, a une soif pour sa parole. Et alors, inculquer la parole à nos enfants, ça va devenir de façon tout à fait naturelle. Et c'est une responsabilité à ne pas déléguer. Combien souvent on dit aux parents, ce n'est pas l'école du dimanche, ce n'est pas le groupe de jeunes de vendredi soir à inculquer la parole de Dieu, c'est la première responsabilité aux parents. Et je vous donne juste quelques exemples ici. Comment est-ce qu'on peut faire cela en ayant un culte familial adapté aux enfants, avoir des histoires bibliques, des histoires missionnaires, mémorisation des versets, un temps de prière, des CD de musique chrétienne, et tout cela, mais adapté à leur niveau. Et vous savez, on est dans l'ère électronique. Et les enfants sont, avec des bébelles, des gadgets comme ça, là, sont plus, moi je me trouve, vieux du jeu. J'ai une petite fille, là, elle va avoir 3 ans dans 2 mois. Et ça, elle vient chez moi, elle prend mon iPad, elle s'en va là, touc, 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 capable de sortir ses programmes, je dis, waouh, même... Alors, voilà une manière d'utiliser l'électronique. Il y a des applications bibliques en anglais, en français, en espagnol, dans toutes les langues, où est-ce qu'on peut rendre la parole de Dieu intéressante, amusante pour les enfants, puis... S'ils sont capables d'aller sur YouTube et chercher le petit bonhomme, mais ils sont capables aussi d'aller sur l'app et de chercher des histoires bibliques. Et là-dedans, vous avez une panoplie de choses que tu peux faire. La création est là, l'arche de Noé, vous avez Moïse, ainsi de suite. C'est plein, plein. Il y a Jésus aussi dans le Nouveau Testament. Et c'est interactif. Les enfants, ils aiment cela. Ça, je n'avais pas ça quand j'ai grandi. C'était la parole de Dieu. Mais quand même, on est dans une nouvelle génération, on s'adapte. Je veux terminer avec justement cette confession d'un père. J'ai trouvé ça intéressant. Il dit ceci: mes enfants sont maintenant grands, ils ont tous quitté la maison. Mais si c'était à refaire, voici ce que je ferais. J'exprimerais plus mon amour à ma femme devant mes enfants. Je rirais plus avec mes enfants de nos erreurs comme de nos joies. Très, très important. Je les écouterais plus, même les plus petits. Je reconnaîtrais mieux mes propres manquements et je ne prétendrais plus à la perfection. Je prierai différemment pour ma famille. Je ferai plus de choses avec mes enfants. Je les encouragerai plus et les complimenterai plus. Je ferai plus attention aux petites choses, des petits gestes et des petits mots attentionnés. Et puis, si c'était à refaire, chaque chose ordinaire qui se produit durant chaque journée ordinaire me servirait à leur montrer l'action de Dieu. Voilà, c'est tout un challenge, tout un défi. Et vous savez, il n'y a pas ici de garantie que vous faites ça, puis vos enfants viendront au Seigneur. Mais ce que j'aimerais laisser avec vous ce matin, mon message n'était pas ici pour vous culpabiliser. Moi, j'ai vécu avec ce message, et je parle de mon propre cas. Je vois les enseignements de Dieu qui nous donne une manière d'élever nos enfants, de ne pas les hériter, de ne pas les pousser à la révolte, parce que les deux sont liés. Un enfant qui est révolté contre ses parents aura une tendance aussi d'être révolté contre la parole de Dieu. Alors Dieu dit, évite cela. Mais en même temps aussi, un enfant qui a appris justement la correction et la discipline, et être instruit, vous êtes en train d'ouvrir son cœur, justement, à recevoir la parole de Dieu, la semence que vous mettez dans le cœur. Vous êtes en train de labourer la terre. Et je vois ici une tension. C'est comme un peu le salut. Il y a la responsabilité de l'homme, et vous avez aussi Dieu qui est souverain. Et la même chose, vous avez aussi la responsabilité des parents. C'est une lourde responsabilité. Mais vous avez aussi la grâce et la souveraineté de Dieu. Et comme j'ai dit ce matin, quand on priait, Dieu est le Dieu de la deuxième, la troisième, la quatrième, la xième chance. Et si ce matin, vous avez fait des erreurs et vous reconnaissez, comme moi j'ai reconnu vos graffes et vos erreurs avec vos enfants, Dieu est gracieux, Dieu est miséricordieux. Il est capable, si on s'humilie, on se prosterne devant lui, on crie pour nos enfants. Moi, j'ai un enfant qui n'est pas sauvé. Et dans mon cœur, j'aimerais le voir venir au Seigneur. Et moi, j'ai cette confiance en Dieu. Je prie et c'est ce que le Seigneur me dit. Fais ta part. Il est trop tard maintenant. Il a grandi, quitté la maison. Mais je peux prier pour lui. Et le Seigneur est capable de faire des choses qui peuvent même nous surprendre. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour être un Dieu qui nous comprend dans toutes nos faiblesses. Et Seigneur, nous voulons nous humilier sous ta main puissante afin que tu nous élèves au temps convenable. Et ce matin, nous ne voulons pas être indifférents, Seigneur, à nos enfants qui ne te suivent pas, qui sont dans ce monde, nos cœurs sont brisés. Mais tu es le Dieu de toute espérance. Tu es le Dieu qui nous relève, qui nous restaure, qui nous console. Et nous continuons, Seigneur, à intercéder pour ces enfants. Aide-nous aussi d'être humbles devant toi, d'admettre nos fautes, nos erreurs, Seigneur. Sachant que tu es capable de mettre une bombe sur le camp, de restaurer des relations brisées, et de relever, Seigneur, et de ramener des brebis perdues. Oh Seigneur, fais-nous tant de bien, toi qui es un Père qui nous aime, qui est compatissant, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, qui nous pardonne toutes nos iniquités. Alors on remet à toi. Fais du bien, Seigneur, aux parents aussi qui souffrent, parce que leurs enfants ne te connaissent pas. Fais-leur du bien, Seigneur. Console leur cœur. On demande ces grâces au nom de Jésus. Amen.